Bonjour. Il y a 200 ans, le 9 avril 1821, pour être précis, naissait un des plus grands poètes français, le plus grand pour beaucoup. Je veux parler de Charles Baudelaire, le poète maudit, le prince des poètes, celui qui a fait prendre un tournant radical à ce genre littéraire, à cet art. Baudelaire et la poésie vont être au cœur de ce numéro d'idées aujourd'hui. Pour en parler, nous avons invité Carlo Ossola, professeur honoraire au Collège de France, philologue, critique littéraire, auteur des 100 mots de Baudelaire dans la collection Que sais-je, au PUF, aux Presses universitaires de France, dans lequel il souligne, je le cite déjà, l'impressionnant défi poétique que s'est assigné Baudelaire, parler du divin sous un ciel vide de Dieu. Nous avons également invité notre amie Anne Dugin, la rédactrice en chef de la rédaction de la revue Esprit. Passionnée de poésie, poète elle-même, poétesse pour être plus précis, son dernier recueil s'intitule « L'ombre des heures ». Il est publié aux éditions « L'herbe qui tremble ». Avec eux, nous allons non seulement parler des fleurs du mal, mais aussi de la poésie contemporaine dans ce nouveau numéro du magazine Idées que vous pouvez télécharger afin de l'écouter quand vous le souhaitez, sur le site de la radio, sur votre moteur de recherche préféré, ou bien encore écouter sur l'application gratuite RFI Pure Radio. Elle est gratuite, j'insiste, et fort pratique pour écouter notre radio en tout lieu. Bonjour Carlo Ossola.
Bonjour monsieur.
Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous retrouver dans ce magazine. Nous avions parlé ensemble il y a quelque temps de cela, de Dante et d'un de vos derniers livres qui s'intitulait « Les petites vertus ». Et là, grâce à vous, nous allons parler de Baudelaire, qui est un de vos auteurs fétiches également. Bonjour Anne Dugin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et poète, et oui, on peut être journaliste et poète, rédactrice en chef donc de la revue Esprit, passionnée par la poésie, et c'est un domaine que vous étudiez également. Et grâce à vous, ensemble, Carlo Ossola et Anne Dugin, nous parlerons non seulement de Baudelaire, mais de l'évolution de la poésie pour essayer de voir ce qu'est la poésie aujourd'hui. Carlo Ossola, je parlais tout à l'heure, reprenant une réflexion célèbre, du prince des poètes. Il n'est pas le seul prince des poètes, visiblement, mais on dit souvent que c'est le prince des poètes, Baudelaire.
Oui, il faudrait demander à Charles Baudelaire s'il est content d'entendre le terme « prince ». Et je pense qu'il aimerait mieux avoir le nom de « le maudit des poètes » ou le plus marginal des poètes, ou alors celui qui a creusé en vieux capitaine les abîmes. Il se donnait une tâche difficile, mais il a jamais fait des compromis. Donc la valeur de sa parole, c'est que c'est une parole prononcée face à l'éternité. Et sa leçon dure précisément parce que il a essayé également par les mots de passer au-delà de la fragilité des mots. Ça, on le sent constamment. Et c'est aussi son anachronisme relatif à son époque. Je ne sais pas, l'utilisation de la rime, des strophes classiques, alors qu'il parle, je ne sais pas, de l'opium, ou alors de la mort, ou alors de la défaite, de la structure du corps humain. Eh bien, tout ça a une valeur présente énorme. Lutter contre l'affaiblissement des mots par les mots, et leur donner un destin éternel.
Alors nous allons nous intéresser plus particulièrement aux fleurs du mal, mais il faut préciser, Carlo Ossola, Anne Dugin, qu'il a écrit d'autres choses aussi que les fleurs du mal.
Bien sûr, moi j'adore les salons de Baudelaire, c'est l'un des premiers qui arrive à faire non seulement une description d'un tableau, mais une poétique de la formule nouvelle de l'exposition de tableau. Ce n'est plus une visite à un auteur, ce n'est plus, je dirais, la reconnaissance d'un chef-d'œuvre, mais c'est se mettre dans un milieu où le tableau commence à dialoguer avec les foules, pour ainsi dire. Et j'aime également sa correspondance. Les lettres à sa mère, c'est un vrai chef-d'œuvre.
Il y a quelques-unes de ses lettres qui ont été publiées aux éditions Le Passeur. Ça s'intitule « Cette maladresse maternelle me fait aimer davantage quelques lettres de Baudelaire à sa mère ». Anne Dugin, qu'est-ce qui vous intéresse chez Baudelaire ?
Alors, d'abord, il y a cet aspect, je pense, monument, absolument incontournable. Et c'est vrai que parmi les poèmes qu'on apprend par cœur, encore au collège, dans les études qu'on fait en France, il y a bien évidemment des poèmes de Baudelaire. Donc, il y a d'abord cette entrée-là. Et puis, plus tard, avec peut-être une plus grande maturité, la découverte de quelque chose de tout à fait unique qui est... ce que je n'ai compris qu'après, mais finalement que Baudelaire a cette voix très singulière qui a été très marquée par le romantisme et qui en même temps sort la poésie française du romantisme et ouvre autre chose qui est ce qu'on appellera la poésie moderne et qui le reste encore à bien des égards. Et alors moi j'ai été très marquée par Les Fleurs du Mal, par un certain nombre de poèmes et par le côté... cette sorte de malaise, d'amertume en fait, qui transpire de ses poèmes, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais grande adolescente. Et il y a un autre texte qui a beaucoup compté pour moi. Ce sont les petits poèmes en prose et la lettre qu'il écrit à son ami Arsène Houssaye au moment où il expose ce projet et où il explique qu'il rêve de trouver cette prose qui permettrait de traduire en chanson le cri strident du vitrier. Et donc c'est à ça qu'on mesure que la parole de Baudelaire a tenu à la fois une grande exigence de confrontation à l'idéal et en même temps une grande exigence de présence à son monde contemporain, le comprendre, le saisir, en rendre compte par des mots, et presque une qualité anthropologique finalement dans ce rapport-là à son présent. Et ça le rend très, très particulier, très spécifique, il me semble.
Carlos, alors, il faut rappeler que Les Fleurs du Mal ont été publiées en 1857 et publiées une deuxième fois, une seconde fois en 1861. En 1857, la justice impériale du Second Empire a condamné, comme elle a condamné d'ailleurs Flaubert avec Madame Bovary, elle a condamné certains et censuré certains des poèmes, je crois qu'il y en a 6 ou 7, et que cela a profondément marqué Baudelaire.
Oui. Il était malheureux. Il écrit à son ami et éditeur, mais vous avez rien fait quand c'était le bon moment.
Maintenant, le fameux Auguste Poulain-Malassis.
L'édition est confisquée. Enfin, il est plein de malheurs. Peut-être il s'attendait pas à ce type de... Il estime qu'il avait mené la bonne bataille, qu'il a été mal compris. Du reste, après, il écrit des lettres pour avoir une réduction de l'amende. Il obtient cette réduction. Donc, c'est une affaire qui le travaille énormément. Mais en même temps, je dirais, la qualité de sa réflexion gagne.
Alors, je vous propose quelques poèmes dans cette émission. Et on va commencer avec l'un des plus connus. Anne parlait des poésies que l'on apprend à l'école. L'Albatros, par exemple, qui est une allégorie du poète, l'Albatros lu par le comédien de la Comédie française, Denis Podalydès.
L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Des poèmes les plus célèbres de Baudelaire, Nigel.
Oui, alors pour plein de raisons, il est très beau, il a ce rythme, cette ampleur qui le rend si agréable à écouter. Très emblématique aussi parce qu'il est très explicite sur cette redéfinition de la figure du poète dont Baudelaire participe. Donc on parlait tout à l'heure de la figure du poète maudit, là c'est le poète exilé, c'est le poète incompris, c'est le poète dont tout le monde rigole. Et il faut prendre la mesure de la rupture que ça représente dans une traduction française où, ça c'est tout ce qu'a montré l'historien Paul Bénichoux sur la figure du poète prophète, ou jusqu'au romantisme compris, le poète était cette figure sacrée au sens à laquelle est dévolu des pouvoirs de nature spirituelle. En fait, il exerce une sorte de sacerdoce pour guider le peuple, pour éclairer les foules, pour être en communication avec un autre ordre que celui du monde. Et là, on voit bien le déplacement qu'opère Baudelaire. Le poète n'est plus cela. Il est autre chose. Et après, avec Rimbaud, il deviendra le voyant. Il deviendra cette figure marginale, incomprise, douloureuse aussi, qui prend en charge un autre rapport au langage, un autre rapport au monde que celui du monde commun, entre guillemets. Et cette inflexion, je crois, se fait vraiment avec Baudelaire, et l'Albatros est le lieu d'expression de ça la plus limpide.
Carlos, là, vous écrivez « Figure de solitude, victime de persécution, prisonnier de la sottise humaine » dans la notice que vous consacrez à l'Albatros, dans ces 100 mots de Baudelaire.
Oui, je pense que là, c'est vraiment une pièce, un manifeste. Je crois que Baudelaire était conscient. Et du reste, il y a toute cette filière, Albatros, le cygne qui est le cygne blanc qui est dans la boue, dans les banlieues parisiennes. Baudelaire prend très au sérieux la vie moderne dans ce qu'elle crée de marginés supplémentaires. Et le poète est aussi le chanteur de cette boue. C'est l'une des parties que j'aime le plus dans Les Fleurs du Mal. J'ajouterai également, parmi les poèmes célèbres, le Tasse en prison de Jeanne de la Croix. Parce que là, il y a vraiment, d'un côté, la conscience de la destinée tragique du poète, toujours, pas seulement dans le monde moderne, pas seulement au 19e, mais déjà au 16e, quand on pense que le poète est vraiment le bien-aimé des cours, non, le vrai poète est en prison, est marginal. Et puis il y a aussi l'hommage extraordinaire à Delacroix. Il y a un rapport fondamental de Baudelaire à Delacroix. On le voit du reste aussi dans les essais sur la peinture. Je crois que là, Baudelaire a vraiment établi l'unité des arts. Il ne faut pas oublier non plus son rapport à Nadar. Dans ce sens-là, il est un poète très moderne parce qu'il arrive à retrouver la contribution fondamentale que la photographie va donner. La correspondance avec Nadar est magnifique de ce point de vue-là. Donc c'est un fondateur là aussi.
Il a compris effectivement que la photo serait importante et qu'elle serait importante notamment pour un artiste.
Tout à fait. La photo libère, d'une certaine manière, l'artiste du devoir de la pure et simple imitation. Pourquoi reproduire l'objet ? L'artiste a un devoir plus grand, vous venez de le dire. Il vient d'une tradition de prophète. C'est celui qui parle au nom du peuple. C'est celui qui prend sur soi, disons, le malheur d'exister. Alors, le photographe le libère de tout le travail complémentaire qu'est la représentation de l'objet. Et je trouve que là, Baudelaire est vraiment un fondateur. Il n'y a pas de poésie moderne au sens 19e, 20e siècle sans cette libération que Baudelaire fait grâce aussi à la contribution de la photographie qu'il fait de la parole poétique.
Alors, il avait une définition de la beauté assez particulière, Charles Baudelaire, vous écrivez, Carlo Sola, j'ai trouvé Vous le citez, hein, Baudelaire. J'ai trouvé la définition du beau, de mon beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Une tête séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire. C'est une tête qui fait rêver à la fois de volupté et de tristesse, qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété. Le mystère, le regret sont aussi les caractères du beau. C'est votre avis également, Anne Dujan, en tant que poète?
Ce qui me paraît très fort dans cette définition là, c'est la dimension ardente, c'est ce rapport là presque à la brûlure du réel. Et cette interpellation là, oui, je pense qu'elle continue de faire partie de ce qui appelle dans le beau. Après, ce qui est très moderne, c'est un peu une évidence de le dire comme ça, mais chez Baudelaire, c'est le fait que, comme le disait tout à l'heure Carlo Ossola, tout le réel présent dans sa modernité, jusque dans sa laideur, devient matière à la poésie, devient la possibilité d'une contemplation, la possibilité d'une parole. Et ça, c'est très intéressant, et ça, c'est resté, c'est un héritage fort, je crois, là encore, de Baudelaire, que du fait de s'intéresser à tout cela, y compris la boue, y compris ces marges urbaines, oui. Notamment, qui sont des lieux de laideur et de souffrance.
C'est une beauté triste, en quelque sorte.
Là, je pense au Tasse, précisément. Il disait, en précédant Baudelaire, mais là c'est vraiment des frères, la beauté, qu'elle vienne de l'enthousiasme ou qu'elle vienne de la laideur, elle est effrayante. Et donc Baudelaire a su hériter de cela. La beauté n'est pas un apaisement, mais elle ouvre sur du vide, du vertige. Elle montre la distance entre l'idéal et la parole dont nous faisons commerce. Voilà. Je crois que Baudelaire nous a libérés du commerce de la parole. Et il a mis la poésie sur la frontière d'un terrain vague et en même temps précis, qui peut éviter que la parole soit simplement du commerce. Donc évidemment, tout ce qui est qui ne peut pas être commercé, mis en commerce, c'est-à-dire par exemple les déchets. Eh ben on peut, là, la parole peut encore être. On le voit dans la partie finale, le vin des chiffonniers, toute cette partie finale si douloureuse. Ou alors les dialogues au cimetière, devant les dalles et tout ça. Là aussi, la poésie peut s'installer parce qu'elle n'appartient plus au commerce quotidien des mots.
Carlo Ossola, Anne Dujan, je vous propose d'écouter un deuxième poème en feuilletant les fleurs du mal. C'est un peu un crève-cœur hein, de devoir choisir, on aimerait les lire, les écouter tous. L'un des plus célèbres aussi, c'est « Correspondance » lu par Daniel Mesguich.
Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui, de loin, se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Anne Dugin, c'est un de vos poèmes préférés, ce poème Correspondance, j'imagine.
Oui, je l'aime beaucoup. C'est surtout que je l'ai toujours lu comme un poème, on va dire, d'art poétique, pour le dire vite. C'est-à-dire un poème dans lequel, en réalité, il nous parle de la façon dont il écrit. Il nous parle de la fabrique de sa poésie. D'abord, il y a ce mot correspondance. On voit d'emblée émerger le projet très moderne d'une forme, en fait, dans laquelle des éléments se répondent. Tout ça est construit. Tout ça n'est pas au fil de la plume. On voit aussi, je trouve qu'il exprime dès le début, dans son premier vers, une sorte de prise de distance avec la nature. On le disait tout à l'heure, l'idée que la nature serait modèle et que l'art se justifie dans son imitation, c'est une idée avec laquelle il emmène finalement l'art ailleurs, en disant voilà, que c'est plus là que se situent les pouvoirs de l'art en propre. Et puis, ce qui est frappant, je trouve, dans ce poème, c'est la place accordée au sens, et notamment olfactif, enfin le parfum. Et je l'ai toujours entendu comme une façon de dire que la poésie s'enracinait dans un certain rapport à la sensation. Et ça me paraît très important chez Baudelaire. Il se méfie du sentiment. Le sentiment, y compris dans sa version amoureuse, pareil, c'est quelque chose qu'il met très nettement à distance dans sa poésie. En revanche, la sensation est très présente. Comment est-ce que le poète sent le monde ? Et je trouve que dans Correspondance, c'est très clair, c'est très nettement amené.
Alors, comment le poète sent le monde et comment le poète se situe dans le monde ? Il faut dire un mot, Carlo Sola, Anne Dugin, du dandysme, de sa façon, de sa manière d'être. Hein. Il faut préciser que Baudelaire a vécu ses plus jeunes années, enfin ses années de jeune adulte, dans un état de confort certain. Il a tellement dépensé qu'il a fini par être mis sous tutelle, en quelque sorte. Et il a toujours... aimer être bien habillé, on dirait aujourd'hui prendre des postures, c'est important aussi pour comprendre Baudelaire, c'est une manière d'être.
Tout à fait, on le voit très bien quand il se rend en Belgique, il trouve que la vie...
À la fin de sa vie, oui.
Voilà, est exactement le contraire du dandysme qu'il souhaitait incarner, l'apparaître et en même temps une manière de mettre son masque, mais il faut que le masque soit propre et élégant. Je trouve que là, Baudelaire est pleinement baroque. Toute la vie est masquée. L'arvatus prodeo, comme Erasme le disait, j'avance avec mon masque, mais alors il faut que le masque soit digne. Donc il y a le sérieux du dandysme. Et du reste, ses amis le remarquaient. Derrière ce masque, il y a quelquefois le désespoir, quelquefois, je dirais, le désir prophétique. Mais en marchant dans la rue, il faut être bien masqué.
Écoutons un autre extrait des Fleurs du Mal, qui se situe dans la partie spleen. C'est le deuxième poème de cette partie, lu toujours par Daniel Mesquiche.
Spleen. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où, comme des remords, se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchers seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux. Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.
Difficile de parler après Baudelaire, comme après Mozart, Carlo Sola, Anne Dujan, mais il le faut pourtant. Le temps qui passe est une obsession pour Baudelaire. Cela traverse son œuvre.
Tout à fait. Là, je pensais en écoutant ce meuble à tiroir. Théoriquement, on nous rappelle l'art de la mémoire, comme on l'a concevé au XVIe siècle, c'est-à-dire une manière de classer nos souvenirs avec des correspondances. Mais quand on voit la suite du poème, ce meuble à tiroir nous restitue non pas la conservation des choses, non pas le classement des souvenirs, mais nous ouvre au cimetière. C'est vraiment la conscience du temps qui ronge tout, s'empare de tout et qui neutralise tous nos désirs. Il y a vraiment chez Baudelaire une haute conscience de la mort. La mort n'est pas seulement l'absence de vie, mais c'est vraiment comme au Moyen-Âge le triumphus mortis. C'est ceux qui triomphent encore sur la renommée. Il n'y a plus rien d'humain qui aille au-delà de la mort. Et donc, là aussi, c'est une manière de prendre au sérieux ces grands, colonnes d'Hercule, pour ainsi dire, de notre expérience. Il faut qu'il y ait une idée forte de la mort, d'un côté pour avoir une conscience de l'en-deçà, de la vie, et aussi pour avoir une conscience de l'au-delà, c'est-à-dire l'éternité. Et je trouve que là, Baudelaire a été vraiment quelqu'un qui a résumé d'une manière magnifique la civilisation occidentale.
Il y a un autre mot-clé, Anne Dujan, pour comprendre Baudelaire, et peut-être pour comprendre la poésie d'aujourd'hui, c'est le mot « ennui » qui figure à la fin de son premier poème, du premier poème qui se trouve dans « Les fleurs du mal ». C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, l'ennui.
Oui, et le poème Spleen qu'on vient d'entendre et donc le prolongement que vous nous donnez là avec cette question de l'ennui est effectivement une thématique centrale. Il est question de ce boudoir empli de fleurs fanées dans le poème qu'on vient d'entendre. Tout ça est également très évocateur. Et en réalité, on comprend que ce spleen prend des dimensions tout à fait singulières, c'est-à-dire ce n'est plus l'âme romantique malheureuse face au monde, c'est un état de l'être en soi qui devient continu, qui devient total et qui est effectivement lié à cette conscience de l'abîme, cette conscience du gouffre face auquel rien n'est rattrapable en réalité. Et donc le spleen comme expérience totale et existentielle, à partir de laquelle il va falloir néanmoins écrire et prendre la conscience d'une certaine vie possible.
Il y a un autre poème que j'aime beaucoup, c'est totalement subjectif, mais peut-être allez-vous partager mon goût, c'est le poème qui s'intitule « À une passante ». Et là, je trouve, on parlait tout à l'heure du temps qui passe, la rencontre de cette femme. Et il sait, Baudelaire, en tout cas le personnage du poème, sait qu'il ne reverra jamais cette femme et il s'en fait une raison. C'est un des très beaux poèmes de Charles Baudelaire, Carlo Sola, oui, à une passante.
Oui, j'aime énormément ce poème. C'est, je dirais, la consécration de l'instant. Je vous reverrai plus que dans l'éternité.
J'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la poétique de l'instant valorisé et perdu. C'est l'un des poèmes les plus beaux de Baudelaire et je dirais de notre poésie moderne. Parce qu'il y a tout, il y a...
Il y a l'intensité
Il y a l'intensité, et puis pensons par exemple au rôle de la femme dans la poésie moderne. C'est la première fois qu'un poème si beau est dédié, est consacré à une passante, c'est-à-dire à l'anonyme, à l'inconnu, n'est-ce pas? Je dirais qu'il y a déjà, d'une certaine manière, les germes, le jaillissement possible de Beckett. Mais Beckett est là dans l'anonymat le plus pur, d'où il extrait des moments qui sont fixés, cristallisés pour toujours. C'est pourquoi vraiment Baudelaire est la source de toute modernité. Moi, je relis souvent à une passante.
La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais crispé comme un extravagant. Dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs bien loin d'ici, trop tard, jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
À une passante, un des plus beaux poèmes de Baudelaire avec une magnifique interprétation de Léo Ferré. Suite de ce numéro d'idées, une question que se posent sans doute nos auditeurs en ce moment même. Qu'est-ce qu'être poète aujourd'hui au fond ?
Alors, c'est une bien vaste question et je pourrais répondre.
C'est intimidant, quoi.
Et je pourrais répondre que pour ce qui me concerne, donc ce qui me paraît caractériser encore aujourd'hui, alors même que les formes, enfin les frontières de tous les genres sont en travail. Qu'est-ce que c'est que la poésie aujourd'hui, la performance, la poésie sonore ? On sait à quel point elle est multiple et plurielle, mais à chaque fois, ce qui, je crois, continue de la définir, ou en tout cas continue de définir l'intention, qui est celle d'une poète, c'est la question d'interroger un certain rapport au langage. Alors, pour ce qui me concerne, et là je vous dirai forcément quelque chose de très personnel.
C'est ce que nous attendons de vous.
Pour moi, la poésie reste, dans un premier temps, un art du regard et de l'écoute, et dans un second temps, de la mise en mots de ce qui a été vu ou entendu, avec un enjeu majeur, en tout cas pour moi, qui est de réussir à faire entendre comme neuf, comme inédit, pour l'autre, pour celui qui lira, ce qui a été vu ou entendu, perçu comme neuf pour moi. Et ce travail de mise en mots, de mise en musique à travers les mots de cette expérience, qui n'est pas nécessairement biographique, c'est le lieu de la poésie.
le lieu de la poésie. Est-ce que la forme est toujours aussi importante? La strophe, l'alexandrin,
l'octosyllabe. Je le crois. Alors, de ce point de vue-là, on pourra en dire un mot. Baudelaire est effectivement encore une fois un moment très important. Donc, le vers est devenu libre. Comme vous le savez, dans l'essentiel de la poésie moderne, on peut dire que le XXe siècle a été un lent trajet de déstructuration progressive du vers qui devient irrégulier à la fin du 19e, au début du 20e, qui devient libre aujourd'hui, qui parfois est complètement déstructuré sur la page dans un certain nombre d'expériences qu'ont pu être faites à la fin du 20e. Et puis aujourd'hui revient, j'y pense parce qu'il y a un jeune poète qui s'appelle Pierre Vinclair par exemple, qui réinvestit les formes traditionnelles de l'alexandrin, du sonnet. Alors la forme doit rester primordiale, en tout cas il me semble, parce que c'est là qu'est l'instrument, quoi. C'est là qu'est l'instrument à travers lequel va justement s'élaborer un objet sonore, visuel, qui justement apporte une vision nouvelle, qui est celle d'un ressenti ou qui est celle d'un regard, et qui la rend accessible à un lecteur. Ça passe par une exigence de la forme, et je crois que Baudelaire est là encore jusqu'à lui, entre guillemets, enfin il me semble, le langage et la métrique sont très codifiés, et ce sont des moules finalement dans lesquels se coule le langage et le discours. Il me semble qu'il est le premier à affirmer le primat de la forme comme intention même, c'est-à-dire que je crois que Les Fleurs du Mal sont vraiment un recueil qui tranche avec tout ce qui a été fait jusque-là, parce qu'il est très construit, c'est-à-dire que ça forme en différentes séquences des éléments qui se répondent. Rien de tout cela n'est laissé au hasard. C'est l'idée que la forme est plus qu'un véhicule. Elle est le lieu où émerge quelque chose de nouveau qui se dit. Et ça, je crois que ça reste un acquis très fort de la poésie moderne, même si la déstructuration progressive de cette forme ouvre de nouvelles questions aujourd'hui aux poètes contemporains.
C'est aussi votre avis, Carlo Ossola, la forme est toujours aussi importante?
Oui, je crois que il faut penser au magnifique volume « La vie des formes ». Même regarder le deuil de la forme que nous pouvons constater ces jours-ci même en allant au musée Rodin ou au musée Picasso, voir l'exposition de l'arrivée à Paris de Picasso et la première grande exposition Rodin à l'Alma. Eh bien, il y a une conscience et un deuil de la forme qui sont vraiment fondateurs. Mais tout cela n'aurait pas eu lieu sans, l'acharnement de Baudelaire de mettre en forme l'informe, mettre dans une forme digne, classique, ce qui échappe à la forme, parce qu'il est en train de se défigurer, de se perdre, de se défaire, de mourir. Et Baudelaire est l'un des premiers qui a pris en charge cet effet de modernité.
Anne Dujin, vous êtes en train de feuilleter votre dernier recueil de poèmes. J'aimerais que vous nous en lisiez un extrait, pour qu'on ait une idée de ce que vous écrivez et une idée de ce qu'est la poésie aujourd'hui.
D'accord. Alors, je vais vous citer le poème qui introduit la deuxième partie du recueil, qui s'appelle « Deuxième cadran ». Toute la poussière devient visible, dans le soleil de plein midi. Hâte-toi de vivre, tant qu'elle brille, et vole dans ton sillage. Il sera bien temps, quand la lumière aura tourné, de te laisser retenir, de te pencher sur elle, devenue grise.
Carlo Ossola.
Là, on est parfaitement dans l'héritage de Baudelaire, les crépuscules baudelairiens, la poussière qui devient mieux visible quand on avance vers l'ombre, quand la lumière n'est pas zénitale ou verticale. Je crois que c'est vraiment un poème qui peut très bien résumer ce qui nous reste du legs de, de Baudelaire. Parce que c'est vrai que chez Baudelaire, les aubes et les crépuscules sont absolument fondamentaux. Là aussi, c'est un magnifique héritage de la tradition chrétienne de saluer ou de précéder l'aube et d'avancer sur le crépuscule, parce que après il y a la nuit, la tentation, la disparition des formes. Et donc, je me trouve en effet dans un contexte qui résonne avec une harmonie fondamentale.
Voilà, Dugin qui est très ému par vos paroles. Je voudrais que nous terminions cette émission avec un extrait, un nouvel extrait d'un poème de Baudelaire. Et puisque nous sommes sur RFI et que nous n'avons pas de frontières et que nous voyageons et que nous aimons les espaces infinis, je voudrais que nous écoutions un extrait de son poème « Le voyage », extrait lu par Jacques Bonafé.
Étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éthers. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons. Passez sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel aux reflets alléchants. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux.
Alors c'est un autre mot important dans l'œuvre de Baudelaire, Carlo Sola, vous qui les relevez dans ces 100 mots de Baudelaire, on aurait pu parler de Paris, des rêves, de la volupté très importante chez Baudelaire, mais parlons des voyages, et il termine d'ailleurs son recueil sur les voyages.
Tout à fait, je crois que là aussi c'est un héritage classique, et même on pourrait penser à l'itinerarium mentis in deum de Saint Bonaventure. Baudelaire a mis l'expérience humaine comme un voyage. Nous sommes tous des pèlerins, nous sommes tous des bohémiens en voyage. C'est l'un de ses poèmes, et il y a quelque chose de très fondamental dans cette inspiration. Je pense que on termine, et je terminais moi aussi mon petit texte, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est vraiment le grand mot de Baudelaire. D'abord, il faut arriver au fond de l'inconnu, I majuscule, encore une fois. Donc il y a une espèce de métaphysique de Baudelaire qu'il faut prendre au sérieux pour trouver du nouveau. Le nouveau n'est pas la mode, c'est-à-dire n'est pas le moderne. Le nouveau de ce type-là sera dépassé par une autre mode, donc sera très éphémère. Le nouveau vient quand on creuse encore plus en profondeur dans les abîmes. Et là, ce voyage vers les abîmes, c'est l'héritier d'Ulysse, d'une certaine manière, l'héritier aussi des pèlerins qui vont à Jérusalem, à Compostelle, et l'héritier de cet grand désir humain de l'inconnu.
Alors, comme je n'arrive pas à conclure cette émission, mais qu'il va falloir quand même la conclure un jour ou l'autre, je voudrais que nous écoutions un tout dernier extrait. Et là, je fais plaisir, je sais, à Anne Dugin, avec un des poèmes les plus connus également des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, c'est
Harmonie du soir. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce poème particulièrement, Anne Dujean ?
Alors, c'est pas un des plus euphorisants hein, de Baudelaire. Bah, sa forme, déjà, qui est si particulière, je crois que ça s'appelle le pantoum, je crois. C'est une forme qui est très rare en poésie française, où la deuxième et la quatrième strophe deuxième et quatrième vers de la première strophe sont repris en première et troisième position de la strophe suivante. Donc, il y a cette espèce de vertige. D'ailleurs, le mot est présent. Le mot valse également est présent. Donc, il y a quelque chose de très entêtant. Et pour autant, alors qu'on a l'impression de démarrer dans cette atmosphère d'un jardin au coucher du soleil avec les fleurs qui s'ouvrent et qui embaument, le malaise monte et quelque chose se fige. Et au mouvement des premières strophes succède ce sang qui se fige, le mot de reposoir. Et donc, voilà, moi je me souviens très bien l'avoir lu et m'être saisi comme cela. Je trouve que c'est vraiment un poème qui vous prend. Et qui à ce titre-là est magnifique. Encore une fois, c'est la puissance de la sensation, je trouve, qui là est magnifiquement rendue.
Pour conclure, Carlo Ossola, c'est également votre avis ? Vous le lisez comme ça ? Vous l'écoutez comme ça, ce poème, Harmonie du soir ?
Je crois que là, vous avez touché l'un des points essentiels. Je me permets éventuellement d'ajouter cette espèce de prolongation d'ombre qui est tout à fait spécifique de Baudelaire, c'est-à-dire le fait de finir sans finir, d'essayer de pousser au-delà encore les limites, d'essayer de voir au-delà de l'horizon et de voir en même temps que tout meurt au moment même où nous prononçons le mot. Et il y a quelque chose dans ces crépuscules baudelairiens de fondamental. Ce n'est pas seulement la mélancolie au sens classique du terme, c'est quelque chose de supplémentaire, à savoir se préparer à la nuit. Se préparer à la nuit. Je pense que nous oublions que nous vivons la moitié de notre vie dans le sombre, dans les ténèbres, dans la nuit, dans le repos. Et il y a peu de poètes qui nous ont préparés à cela. Et Baudelaire a rempli cette espèce de silence noir par ces longs, longs crépuscules.
Merci Carlo Ossola, il faut lire les 100 mots de Baudelaire publiés au PUF dans la collection Que sais-je. Merci Anne Dujean, il faut lire L'ombre des heures aux éditions L'Herbe qui tremble. On a eu une idée de votre écriture et de vos poèmes. Merci d'avoir accepté de parler de la poésie de Baudelaire et de la poésie également aujourd'hui.
Merci. Merci à vous et longue vie à la parole de Baudelaire.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
RFI, la